Для Саварски се пасива не би да се que le moine n'existait pas. Et,
tu peux être rapproché.
Non.
La minute d'après. Au moment précis où ça s'est passé, où c'est réalisé, il y a généralement, il y a une détente qui se produit dans le corps, puisque le moi est une contraction corporelle aussi, et surtout, il y a une détente qui se produit. Et d'une façon générale, il y a des larmes de gratitude qui apparaissent, très souvent. Ça a été mon cas.
Des
larmes de gratitude. Il y a de la gratitude. Oui, vraiment, il y a de la gratitude. Souvent, il y a de la gratitude. Il y a un moment de gratitude. La minute d'après, je ne sais pas. Ça a duré quand même au moins une minute, la gratitude. Dans le silence, tu vois, juste à être là. Quel bonheur, tu vois. Merci. Ben, si tu veux, la recherche s'arrête. Tu vois ce que ça veut dire? Arrêter de chercher. Tu vois, le moteur s'arrête, quoi.
Il se met en pilote automatique.
Non, c'est fini. Enfin, le calme, la tranquillité, le bonheur. Je sais pas, enfin, quoi.
Pilote s'arrête.
Ça s'arrête. C'est-à-dire, les désirs s'arrêtent aussi en termes de recherche de quelque chose qui n'est pas là. Ouais. Tu vois, l'allant naturel demeure. Ça aime toujours autant les bains de mer, se jeter dans l'eau, et chahuter dans l'eau, et faire des blagues bêtes, etc. Tu vois, l'allant naturel demeure. Il y a quelque chose qui est là, qui se présente sous mes yeux. Évidemment que ça en tient compte, et ça agit en fonction de ça.
C'est comme si on était enfant. Quand on était enfant,
il y a quelque chose comme ça, oui. Sauf qu'il n'y a pas le désir que ce soit autrement. Les enfants, parfois, on peut avoir le désir que ce soit autrement. Hier, dans le train, il y a une petite fille qui disait « Je veux descendre !» Alors, le TGV, c'est un peu difficile. Ça ne peut pas venir. Il ne peut pas y avoir des pensées comme ça. Donc, la langue naturelle demeure, mais les désirs s'effondrent. Il n'y a pas de désir. Il n'y a aucun désir que ce soit autrement que comme ça. C'est tranquille.
C'est très intellectuel, mais il vient. Du coup, il y a bien. Il n'y a plus de recherche d'innovation. Je parle en termes métier ou professionnel.
Ah si, ça peut arriver, ça. Je suis toujours aussi intéressé par les projets écologiques, durables, etc. Je rencontre des gens qui sont dans ce domaine-là, j'ai une grande capacité à trouver des idées, à donner des trucs comme j'avais avant. Ouais. Ça, c'est la façon dont est construite cette personnalité, que ce soit lié aux gènes, des conditionnements, à des expériences de vie, peu importe. C'est fonctionnel, il n'y a pas de raison fonctionnelle. Les projets peuvent encore être là, mais ça marche ou que ça ne marche pas, n'a aucune espèce d'importance.
Détachement du but, enfin de l'atteinte.
Voilà. C'est-à-dire que ça va faire tout ce que ça peut pour que ça marche éventuellement, ou pas d'ailleurs. Ou pas.
Ça va se
Parfois pas du tout. Mais si ça marche, c'est bien, ça ne marche pas, c'est parfait aussi. Il n'y a pas de souci, tu vois. C'est même étonnant à voir, tu vois.
Donc il est possible que tu t'allèges tout à fait de ton matériel.
De
mon matériel. Oui, de ce
qu'il y a
autour de toi.
Explique.
Tu veux dire l'argent, la maison, des choses comme ça?
Elle voudrait être dans un monastère.
Bon. C'est tout le contraire pour le moment et ça me rend.
Alors par contre, ce qui tombe avec, c'est l'idée que ça ne devrait pas être comme ça. Donc forcément, s'il y a des biens à gérer, ils vont être gérés. Et s'il n'y en a pas à gérer, il n'y en aura pas à gérer. Tu vois? Et puis ça va être géré au moment où ce sera géré. Cette année, j'ai fait ma déclaration d'impôt début mai, presque tout de suite, 3 ou 4 jours après avoir reçu les papiers. L'année dernière, ça a été fait le dernier jour. Tu vois. Ah zut, il faut quand même faire ça, tiens, en fait. Bah oui, c'était la date limite. Tu vois, c'est des trucs. Je sais pas, mais en fait, c'est pas important.
En fin de compte, c'est pour le moment.
pour le moment, le fait que je me tracasse avec ce que moi j'appelle du désordre, je prononce déjà d'une certaine façon, c'est l'idée que je m'en prête, que c'est pas acceptable pour moi.
Exact.
Que c'est pas dans les...
La différence, c'est que moi j'aime le désordre.
Voilà.
J'aime l'ordre et j'aime le désordre.
Oui, c'est tout relatif, hein, dans le désordre.
Et voilà. Donc, j'aime l'ordre au sein du désordre et le désordre au sein de l'ordre.
Oui, quand c'est en ordre, moi je ne trouve plus rien.
Quand c'est en ordre, je ne trouve plus rien. Voilà. Non, c'est pas, je veux dire, c'est pas important. C'est-à-dire que si tu veux, il y a des choses à faire, par exemple. Tu vois, où tu sais qu'à un moment donné, il y a des choses que tu vas devoir faire. Parce que là, quelque part en fond, il s'est oublié. Et à un moment donné, ça apparaît, ah tiens, il faut faire ça, et puis ça se fait. Ou même s'il n'y a même pas l'idée, tout d'un coup, tu réalises que tu es en train de le faire.
Moi, j'ai l'impression que ma vie s'est arrêtée parce que c'est en désordre chez moi. Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça arrête ou que ça m'empêche d'aller plus loin. Voilà.
Ben, ou bien c'est une idée, ou bien ta personnalité est construite de telle manière que tu as besoin d'ordre, mais dans ce cas-là, fais de l'ordre. Il y a des projets qui demandent de l'ordre, d'une certaine ordre, un certain ordre. C'est pas pour moi là maintenant. Oui, oui, tout à fait. Mais il se trouve qu'en fait les choses se font. Pas forcément celui qu'on croit. Oui, s'il y a une réunion, s'il y a une réunion, généralement j'y suis s'il y a besoin d'y être.
Oui, mais certains diront non. À ce moment-là, ça amène un désordre au sein, je veux dire, de la communauté.
Non, parce que est-ce que le projet a vraiment besoin de cette personne-là à ce moment précis? Si elle n'est pas là, non. La preuve, elle n'est pas là. Elle ne vient pas, pour une raison X ou Y, mais elle aurait pu être morte pour une raison X ou Y, ou à l'hôpital. Tu aurais bien fait ça.
Oui, ça me semble un peu simpliste, ça, quand même.
Mais c'est très simple.
Oui, c'est simple, mais peut-être trop simple. Parce qu'à ce moment-là, personne, bien sûr que personne n'est indispensable à ça. Pour pouvoir faire des projets, je veux dire, plus je dis complexes, il y a des personnes
par exemple,
qui sont à la base, je sais pas.
Par exemple.
Ouais, des travaux, des gros travaux, de grands édifices ou d'autres, des grandes réalisations qui demandent que certaines personnes soient là et qui se disent à ce moment-là, bon, j'ai décidé
de. Non, mais ça peut guère arriver. Bon, il y a un engagement à être là, a priori, on va y être. On va s'arranger pour que quelqu'un d'autre y soit à notre place et qu'il fera le travail aussi bien. Mais il n'y a pas de raison pourquoi on n'y serait pas.
Pourquoi il serait?
Parce que si tu as signé un contrat, tu as signé un contrat. Tu as pris un engagement, tu as pris un engagement.
Et ça, ça demande de l'ordre. Si on a signé un contrat, il se
peut... Oh, tu peux les titrer ordre, si tu veux, oui. Mais oui, si tu veux.
Donc l'ordre, ce serait de nouveau notre, cette espèce de moi.
L'ordre, c'est un concept.
C'est un concept.
C'est un mot qui décrit quelque chose, mais en soi, c'est un concept. Et il est naturel de nouveau. Il est de nouveau naturel. Regardez les animaux. Il y a un ordre naturel qui s'exprime à travers eux. Quand ils font leurs petits, qu'ils couvrent leurs petits, etc. Ça se fait naturellement.
Exactement, c'est simple.
C'est simple.
Pas se casser la tête.
Oui.
Non, il n'y a rien, on rajoute de la pensée dessus.
Mm-hmm. On rajoute, on rajoute des conditionnements, des contraintes, de la pensée, etc. C'est peut-être difficile dans certains cas de distinguer, j'allais dire, le vrai du faux, le pertinent du non-pertinent. Parce que, en fait... Si on regarde de près, on vit quand même dans un monde où il y a plein de choses dont on n'a pas besoin et qu'est-ce qu'on se contraint pour les avoir ou pour les réaliser ou pour les faire avoir à d'autres, etc. Ça n'a pas de sens, quoi. Alors, ok, c'est ordonné, peut-être, mais à quel prix ? Est-ce que c'est la peine ?
Oui, bien sûr, ça.
Donc, si tu veux, s'il y a des choses qui peuvent s'effondrer comme ça,
on en serait soulagé.
On en serait soulagé, oui. Donc, et celle-ci, il y a des chances qu'elle s'effondre. Ou alors, elles sont vécues comme un amusement. Tu vois ? Parce que c'est amusant.
Je pense, oui.
Tu vois ? Comme les enfants, ils jouent au Lego à construire une maison, on peut aussi jouer en grandeur nature à construire un édifice de 20 000 mètres carrés. Pourquoi pas, tu vois.
Et on notera qu'une fois la maison construite, c'est plus drôle. On peut la démonter. Ce qui est amusant, c'est de la construire, pas de la conserver.
Oui, mais on la vend, comme ça on a de l'argent pour recommencer.
Oui, pas des
le jeu continue. Non, mais, je veux dire, moi, j'ai pas d'opinion arrêtée sur ces choses-là. En tout cas, mon sentiment, mon impression, c'est que il y a un ordre naturel qui s'exprime. Et puis, je dis pas que c'est tout le temps comme ça, j'en sais fichtrement rien, mais l'impression que j'ai, c'est qu'il y a une espèce de conscience bienveillante qui veille, tu vois.
Mais il y a comme une intelligence.
Oui. De toute façon, la vie est intelligente, mais plus que nous. Regardez le corps humain, comment ça fonctionne, on est bien capable de créer ça.
Non.
Elle l'a fait sans penser. Mm-hmm. Ça s'est apparu. Mm-hmm. Si on pense à la manière dont fonctionne le système nerveux et tous les systèmes hormonaux et comment ça se répond les uns les autres, c'est impensable. C'est impensable, mais c'est quand même. Et l'intelligence n'est pas juste liée à la pensée. C'est vraiment pas grand-chose, l'intelligence liée à la pensée. Mais par exemple, j'avais un rendez-vous chez le notaire il n'y a pas longtemps, là, et à 4h, je lui disais, n'oublie pas le rendez-vous chez le notaire. Et puis, à 6h30, j'avais rendez-vous. À 18h27, je lui dis, oh, le notaire. C'est apparu, tu vois. Entre-temps, j'avais oublié. Et j'y étais à 35.
Bon, il avait 5 minutes de retard.
Il avait 7 minutes de retard.
7.
J'ai eu le temps de dire bonjour à tout le monde.
Ça nous arrive à nous aussi.
Mais ce que je veux dire, c'est pas.
C'est un bon signe.
En réalité,
bon
rien ne se passe.
Puis
même si j'avais pas été, peut-être ça aurait fait râler, mais ça m'aurait fait rire, puis on aurait repris rendez-vous, puis j'aurais été la fin d'après, puis c'est tout. C'est pas grave. En réalité, c'est pas grave. L'idée qu'on s'en fait est grave. Mais en réalité, c'est pas grave. Mais s'il m'avait demandé 100 euros parce que j'avais pris rendez-vous et j'étais pas venu, j'aurais donné 100 euros. Où est le problème? C'est pas grave.
Si on peut jouer à se créer des problèmes, on peut. Quoi.
Oui. Ça, on est très doué pour le faire. Ça me dérange pas.
Non, mais non.
On va.
Il n'y a pas de
méditation. On va se faire avec.
Il n'y en a pas.
Il n'y a pas de porte.
Il n'y a pas de porte. Ah, mais c'est nous qui ouvrons le local. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas.
Je vais aller voir si la porte est ouverte.
Il y a un courant de psychologie qui dit que pour pouvoir lâcher le moi, il faut d'abord le construire.
Le moi.
C'est basé sur l'idée qu'il y a un moi qu'on construit et qu'on va déconstruire. Moi, je dis qu'il n'y a pas de moi. On fait appel à autre chose. Ce qu'on peut dire, je crois, dans cette dynamique-là, c'est qu'il y a besoin d'être construit, d'être adulte quelque part, si tu veux fonctionner dans le monde et tout. Maintenant qu'il apparaisse la croyance en un moi pour une certaine évolution de l'espèce humaine, je n'en suis pas certain. Mais là, quand je parle du moi, je parle de la croyance en la pensée moi. Je ne parle pas d'une construction d'un individu vivant dans le monde, tu vois, et fonctionnant dans le monde. Ça, évidemment, il vaut mieux savoir comment ça fonctionne. Et en même temps, si on ne sait pas, on peut le dire quand même, mais ce sera plutôt dans les bois que dans une maison de 350 mètres carrés à vendre sur un avenir, je ne sais pas quoi. Pas assez de vente. Après, si on parle de psychothérapie, et ce n'est pas en critique que je vais dire ce que je vais dire, parce que j'étais psy pendant 20 ans, plus de 20 ans, la psychothérapie est fondée sur l'idée qu'il y a un moi. Et que ce moi va pas bien, et qu'on va l'aider à se construire, qu'on va l'aider à aller mieux, qu'on va l'aider. il n'y a pas de moi. Donc là, quelque chose de complètement révolutionnaire par rapport à la psychothérapie. Et cependant, tu vois que, en regardant, quand le regard se pose sur ce qui se passe, il y a des changements qui peuvent se produire. Le sentiment de responsabilité, de culpabilité peut disparaître. Donc, quelque part, entre guillemets, on pourrait dire que c'est une forme de thérapie. Sauf que ça ne s'appuie pas sur l'idée d'un moi. Ça s'appuie sur le regard. Porté sur les croyances. Porté sur ce qui arrive. Les sensations, les émotions. Et ça ne change pas, ça ne cherche pas à changer quelque chose. Le changement est un bénéfice secondaire. C'est un après-coup. Mmh.
Un effet secondaire.
Un effet secondaire, tout à fait.
Mais c'est à cause de ça qu'on cherche quand même.
On cherche le changement,
oui.
Attends. On cherche parce qu'on croit, on croit en des pensées fausses. Mmh. Voilà pourquoi on cherche. Et on croit que la recherche va nous apporter ce qu'on cherche. Mmh. Ce qui n'est pas possible parce qu'on est ce qu'on cherche.
Mais on ne sait pas s'arrêter de chercher.
Exact.
Ça cherche.
C'est le jeu. C'est la vie qui joue à travers tel et tel organisme mental à chercher. C'est un jeu.
Un jeu.
J-E-U. C'est le jeu du jeu.
C'est la vie
du jeu.
La lila.
La lila du Seigneur, exact.
Du jeu, j'avais dit. C'est autre chose. Gérard, tantôt, tout au matin, tu disais que chacun avait une personnalité, ça va être l'exemple des petits chiots, et d'où elle vient, cette personnalité?
La parole, les gènes, aussi, bien sûr, les gènes.
Mais tu disais que dans une. Tu parlais des petits chiots, et que ils étaient. Même s'ils avaient été élevés par les mêmes parents.
Oui, mais ils ont des gènes différents. Les gènes sont différents chez chacun.
Oui, d'accord.
Donc déjà, il y a les gènes.
Chacun a une partie de la famille.
Et puis, il y a l'histoire de vie de chacun. Mm-hmm. Il y a,
il y a
des conditionnements aussi qui en font partie.
Il y a le premier, celui qui est fort.
Mais sinon, ils n'ont pas la même histoire. Parce que même quand ils têtent leur mère, ils ne sont pas à la même place. Donc l'histoire n'est pas la même.
Non, mais ça, je suis d'accord.
C'est du genre accumulé, en fait.
Il y a une partie de ça, des événements de la vie de chacun, et puis il y a les gènes quand même, et puis les conditionnements, ça fait partie.
Les gènes ne sont pas les mêmes.
Oui.
Je pense que c'est les gènes.
L'ADN.
Non, mais oui, mais je ne suis pas médecin, c'est quoi?
Mais il y a une part de
rendement. Bah, t'es né femme, mais moi je suis né homme. Ça, c'est les gènes. Il y a XX et XY. XX, ça fait une femme, et XY, ça fait un homme.
Je n'aurais rien dit si j'étais né.
Mais t'as un corps qui est différent du mien.
Avec une femme, j'aurais pas su que je l'étais.
T'as un corps qui est composé différemment du mien. Ça, tu le sais. C'est lié aux gènes. La couleur des yeux, des cheveux, tout ça, c'est lié aux gènes. Et il y a des traits de personnalité qui sont liés aux gènes.
Ça semblait plus.
Peu importe. Laisse tomber, on s'en fiche, en fait. C'est pas grave. Tu peux considérer que tout est lié au conditionnement ou à l'expérience de vie, peu importe.
Oui,
c'est
son pari qu'il y a des fleurs
différentes. Oui, et puis même deux roses sont différentes l'une de l'autre.
Et d'ailleurs, pourquoi le maïs s'est mis à la place à 100 000 clones s'il pouvait faire 100 000 choses différentes? Il n'a pas du bureau utilitaire.
C'est pas utilitaire, c'est beau, c'est le foisonnement de la vie, c'est juste l'expression de ce qui est. Ça s'exprime, c'est un jaillissement. Ça s'exprime de milliards de manières différentes, simultanément. Bon, si on était 7 milliards d'humains exactement semblables, tout le monde irait avec tout le monde ou avec personne. Tout le monde voudrait être boulanger.
Personne mangerait
le pain. Personne cultiverait le blé. Ça poserait un problème. La multiplicité, c'est ça aussi, c'est complémentaire, quoi. De toute façon, c'est juste tout ça, c'est juste ce qui apparaît. Et là, on rejoint le deuxième point, je disais, ça c'est un peu plus loin. Moi, je me suis arrêté tout à l'heure. Tout ça, c'est ce qui apparaît. Tout ça est en fait une apparition. apparaissant apparemment, comme un rêve, comme un mirage, comme des images d'un film. En réalité, il n'y a rien. Il n'y a rien de définitivement réel. Existentiellement, c'est réel, c'est indéniable. Mais en réalité définitive, il n'y a rien. Il n'y a jamais rien eu. Même le temps et l'espace apparaissent au sein de ce qui est. Et là, je ne parle plus de « je suis », je parle de ce qui est. C'est-à-dire que, vu d'ici, il y a prise, conscience d'être, être-té, je suis ce qui est. L'éveil, il est là, ce qui est. Il n'est pas « je suis », il n'est pas dans la prise. La prise est constatée, mais l'être-té, je suis, est connue elle aussi, elle est aussi constatée. Qu'est-ce qui connaît ce « je suis » ? Là, le mental, il est soufflé. Et pourtant, c'est indéniable, c'est sûr que c'est connu. Et c'est là, Alors, on n'a pas les mots. C'est l'indicible, l'innommable, l'imprononçable.
Si on met son regard sur cet espace avant, on se dit « Ah, il y a ce qui est, enfin, il y a ce qui est conscient de ce qui est. » Et on dit « Alors, il n'y a rien. » Et si on met son regard sur ce qui est exprimé, alors on dit « Il y a tout. » Mais pour finir, c'est juste une question de positionnement de regard. Mmh. C'est aussi bien...
Sauf que tu ne peux pas dire « Il n'y a rien. » Il y a, tu ne sais pas le nommer, tu ne sais pas en parler, tu ne peux pas en parler. C'est normal, puisque c'est avant tout avant, avant tout mot. Avant ouais, toute existence. Mais c'est pas rien. T'en as le parfum. Tu le sais que c'est constaté. Je suis. Tu sais que je suis connu. Tu sais qu'il y a on ne sait pas quoi qui constate je suis. Tu le sais. Forcément, tu l'es. Mmh. C'est pas rien. Fais attention à ce mot rien et vide et tout ça. Regardez de près, parce qu'en réalité, il n'y a rien qui est vide. Rien, c'est pas rien, c'est rien.
C'est plus que rien.
Vide, c'est pas vide, c'est vide.
C'est pas moi, c'est rien, c'est plus que rien.
Quand vous dites c'est vide, il y a une sensation, donc c'est pas vide, c'est déjà plein de votre sensation.
Et donc là, on est bien pris dans le langage et fonction du focus qu'on a, qu'on choisit d'avoir. On peut décider qu'il n'y a rien, on peut décider que c'est plein, on peut décider que c'est vide.
Exact.
Les deux, l'un n'est pas plus vrai que l'autre. Les deux
sont exact. Vrais. Lorsque je ne suis rien, je suis sagesse. Lorsque je suis tout, je suis amour. Entre les deux, ma vie s'écoule. Nisagar Natamaraj, c'était quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr que c'était le mot à mot. Mais...
Et donc même dire, par exemple, je cherche la vérité ou j'ai trouvé la vérité, c'est encore une fois aussi un focus du regard.
Mais qui l'aurait trouvé, toi ? La vérité est, tu es la vérité même.
Mais donc, c'est chaque fois le même truc, c'est qu'on pense avoir trouvé et pour finir, ça s'échappe.
Mais
ça
si tu le penses, oui.
C'est une pensée crue.
Mais tu l'es.
Oui, ta pensée.
Le penser, c'est forcément une erreur. L'être, c'est l'être.
C'est la différence avec la réalisation.
C'est la différence entre la compréhension et la réalisation, entre la pensée et la vérité. Enfin, oui, la réalisation.
Donc tout ce qu'on pourra dire de quoi que ce soit sera et forcément faux. Réducteur. Et l'autre va dire, mais oui,
forcément.
C'est la vérité que tu dois chercher. L'autre va dire, mais non, il n'y a pas de vérité.
Et c'est la même chose, ils disent les deux la même chose. Oui.
C'est extraordinaire.
Voilà. Et au moment où tu vois les deux sont vrais, les deux sont faux simultanément, là tu commences à rigoler. Parce que tu commences à dire, tu es complètement pris dans le piège, dans le paradoxe qui est constant. Et tu peux jamais dire vrai, et tu peux jamais dire faux. Et c'est les deux sont vrais et les deux sont faux en même temps. Et tu commences à rigoler. Parce que t'es pris au piège et en même temps, tu vois, c'est ridicule, c'est juste un rôle.
Moi, je trouve ça incroyable. Ça me juste ça rigoler, mais on a mis tout en rigoler. Mais je trouve ça soufflant.
C'est la limitation
c'est soufflant.
Du mental. Le mental a ses limites. C'est le Tao qui s'exprime avec des mots, c'est pas le Tao.
Voilà. Exact.
Tout est vrai et tout est faux. Et on fait des guerres pour ça.
Pour des croyances.
Ça, c'est... Sauf que ça s'appuie sur des croyances. Tandis que là, on ne parle même plus de croyances. On parle de l'expression de la vérité. L'expression de la vérité elle-même est réductrice, elle-même ment. On ne peut pas exprimer l'indicible parce qu'il est avant tout existentiel, donc avant tout mot. Il ne peut pas être exprimé par la créature. Il est créateur, entre guillemets.
Et pourtant, il est ressenti à travers le corps. À savoir,
mais c'est un après-coup.
Comme on disait tantôt, c'est je suis dans le non-agir et pourtant j'agis parce que je ressens, je perçois et j'ai un autre.
Parce que ça agit.
Un autre niveau de connaissance, un autre mode de relation avec cet espace d'avant. Et même ça, ce que je dis là, ça réduit le propos.
Exact.
C'est un truc.
Parce qu'en fait, tu agis. Tu ne peux pas le formuler correctement. C'est informulable. Et en même temps. Et c'est ça que moi me fait rire. Mais toi, c'est juste extraordinaire, tant mieux. C'est, toi, c'est juste une expression différente. C'est que c'est complètement vu que je ne peux pas l'exprimer. Et ça continue quand même à essayer de l'exprimer. C'est marrant, quoi.
C'est la poésie, quoi. Enfin, je veux dire, c'est
ouais, tu peux le voir poétique, tu peux le voir extraordinaire, tu peux le voir amusant, tu peux le voir peu importe.
On était coincé dans le rien. Et en anglais, c'est le nothing. Et c'est mieux parce que ce n'est pas une chose. Mais ça ne veut pas dire que c'est rien, c'est juste pas une chose. Et
nous, exact, ce n'est pas un objet. Enfin, encore plus, si, le vide est un objet. Le rien est un objet.
Ouais. Mais même là, c'est objectifié. Quoi.
La preuve, il est perçu.
Pas rien du tout.
Quand les gens parlent de il n'y a rien ou c'est vide, ils perçoivent ce vide, ils perçoivent ce rien. Donc c'est un objet. Et si tu déposes cet objet vide, rien, qu'est-ce qui reste? Il n'y a pas les mots. C'est avant tout avant, de nouveau.
C'est vertigineux.
C'est vertigineux.
Et toi, tu es dans cet espace?
Non. Et oui, je le suis. En réalité, mais toi aussi. Tu es cela. Tu es cela. La chance, la chose qui change, c'est de nouveau conscience, enfin, conscient de l'être ou pas. Enfin, même ça, c'est trop. C'est vraiment, là, ça ne veut vraiment plus rien dire du tout. On pourrait dire absorbé ou pas absorbé, mais c'est pareil, c'est faux. Tout est faux. Tout ce que tu vas en dire sera faux.
Tu sais que
et su comme faux.
Oui, je me pensais que ça me demandait aussi.
Tu sais que tu as de l'eau. Hein.
Ouais, c'est
toi
sais.
L'eau, la bouteille. Ouais, merci. Ouais. Il n'y a pas de verre.
Ouais, ça va.
J'ai oublié. Oui.
Ça, c'est toi.
Au de ce qui fait. Parce que pour moi, donc, si j'ai bien compris, ce qui est, c'est ce qui est vraiment. Qui est indicible.
Oui.
C'est ça.
Oui. Exact. Celui dont on ne peut pas prononcer le nom. Oui, c'est ça. Il est évavé dans la tradition. Oui. L'écriture, les écrits, les autres.
Moi, je voyais aussi ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a là pour l'instant. Pour me parler.
Exact, c'est la même chose, sauf que là, je parlais plus de ce qui arrive pour le distinguer. Ah. Mais on peut aussi dire c'est ce qui est. C'est ce qui est en tant que sa manifestation. Il n'y a pas de séparation, c'est les deux à la fois, les deux simultanément. Ce qui est inconnaissable est connu à travers sa manifestation. Mais c'est un reflet. Il l'a créé à son image. C'est ça, l'image. C'est un reflet. C'est la manifestation. C'est un geste. C'est un mouvement. Une création. Pareil. Mais pas une création spontanée, pas intentionnelle. Ça se fait. Ça ne peut pas ne pas se faire. Dans ce qui est vécu là. Comme le soleil brille, il ne peut pas ne pas briller. Il n'a aucunement l'intention de faire pousser des choses sur la terre. Ça se fait. Même les plantes n'ont pas l'intention de pousser, elles poussent. Les enfants aussi. Bon, ils veulent grandir à un moment donné. Mais même si vous ne voulez pas grandir, ça grandit. Tu vois. Ça ne peut pas ne pas. Et un jour, ils vont se mettre à marcher, ça ne peut pas ne pas. Sauf cas de handicap grave. Et là, c'est pareil. Ça ne peut pas ne pas. Mais c'est pas séparé, ça c'est important. Est-ce que tu peux mettre en silencieux? C'est Souvent, on a tendance à opposer ce qui est l'essentiel à ce qui toi, à l'existentiel. Et ce qui compte, c'est l'existentiel. C'est une erreur. Les deux sont simultanés, complètement imbriqués. De même que l'espace est dans le mur et partout, ce qui est partout, sans exception. Et en tout, tout apparaît à partir de ce qui est, sans l'exclure. C'est complètement imbibé de... Enfin, c'est ce qui est. C'est ce qui est, mais sous forme de Michel, sous forme de Gérard, sous forme de Pierre, sous forme de...
Et comme nous, on est du mot et de l'intention, donc de l'intentionnalité partout, ce qui est dur dans ce discours-là, c'est qu'il n'y a pas d'intentionnalité d'utiliser sa poudre de toute façon.
Ben oui.
Alors nous, sans intention, on est foutus, puisqu'il n'y a plus de moi pour être intentionné.
Ça, c'est anthropocentrique. Je pense que ça fonctionne comme
c'est ça foutu, je comprends pas.
Oui, je disais que... Tu disais, ça pousse, enfin, sans un. Parce que j'aurais retenu, moi,
dans ça arrive de soi-même.
Donc, il n'y a pas de notion d'intention.
Oui.
Mais le moi, il va mettre de l'intention partout. Il y a ce qu'il veut, il y a ce qu'il veut pas.
Ah, oui.
Alors, du coup, il ne peut pas appliquer son raisonnement là. C'est pour ça qu'il ne peut pas s'identifier à ça, tu vois.
Ouais.
Ça a un sommeil derrière. Ça a un sommeil.
Oui, ça arrive aussi, ça. C'est-à-dire que le moi est pris à son propre piège. Il peut lutter contre ça, tu vois. Se débattre en tous sens. Il en crèvera quand même, parce que de toute façon... toute pensée fausse, un jour, sera vue pour fausse. Ça aussi, c'est dans la nature des choses. Oui, on pourrait dire ce qui est plus fort que tout, mais sauf que c'est exactement ce qui est. Donc c'est dire ce qui est plus fort que ce qui est. En même temps, ça n'aura pas de sens. Toi, ça va être tout le temps. Tout ce qu'on peut dire peut être contredit, éclaté. Et qu'est-ce qui reste ?
Il n'y a rien. Ah, il y a tous les labels.
Toi, quelque part, ce qui reste en amont de tout ça, c'est. Tu peux rien en dire. C'est. Et même ça, c'est presque déjà trop.
Alors, on parle sans mots.
C'est vraiment difficile.
La pensée n'est pas verbale. Elle est verbale après coup. La pensée n'est pas verbale, elle est verbale après coup.
Ah oui.
Comment ça, après coup?
Après coup.
C'est-à-dire que c'est pas une immédiateté, elle est formulée. La pensée est formulée. D'abord, elle apparaît, après, elle est formulée.
Question à toi. C'est quoi la nature de la pensée? Le moi n'existe pas.
Je ne sais rien. C'est quoi la nature de la sensation?
On a l'impression qu'à un moment donné, c'est l'identité.
La pensée?
Oui. C'est une intelligence.
Non.
La pensée est une intelligence.
Ah bon, pourquoi? Pas plus qu'une sensation, qu'une perception?
C'est peut-être un attribut de ce qui est.
C'est un outil.
C'est évidemment quelque chose qui apparaît, qui provient de ce qui est, d'où d'autre. Tout est ce qui est. Tout.
Un mode de fonctionnement.
Mais ça apparaît. Un mode de fonctionnement, il apparaît, il provient de ce qui est lui aussi. C'est sa manifestation.
C'est un outil mal réglé. Ici, par exemple, il n'y a plus de... Tout d'un coup, il n'y a plus de pensée discursive, j'imagine.
Si.
Il parle comment? Oui. Non, la pensée discursive.
Il y en a, mais elles ne sont pas crues.
Elles ne sont pas crues.
Ou pas longtemps, le plus souvent.
Ah, d'accord, ok.
À 98% des cas au moins.
Et nous, c'est quoi? C'est une pensée qui est mal réglée, un petit peu comme un émetteur, on l'a mal réglé, on est plus.
Tu as été dit. Nous avons été conditionnés à croire en une pensée erronée appelée moi.
Ouais.
Et à toutes les conséquences associées à cette pensée.
Ah, donc les conséquences associées à la pensée.
D'accord. D'autres pensées crues. L'ego, tous les mécanismes, l'histoire personnelle, tout ce que moi j'ai fait dans ma vie, tout ce que moi j'ai pas fait, ma culpabilité, ma responsabilité, mes peurs, mon histoire, mon ras-le-bol de comment ça devrait être, mon désir de comment ça devrait être, tous les désirs, en tant que quelque chose qui n'est pas là présent. Tout ça, c'est l'ego. Tout ça, ce sont des croyances, tout ça, c'est lié à des croyances, à des pensées crues.
Et Ici, en plus, il y a le collectif. Enfin, c'est parce qu'elle est partagée collectivement.
En plus
c'est dans le collectif. J'ai une bêtise. Hein. La pensée n'était pas aussi complexe qu'elle est maintenant. Ben voilà, si je vais en Inde ou ailleurs, il n'y a pas cette complexité que nous, on a au fur du temps.
Oh, t'inquiète pas, en Inde, il y a aussi plein d'ego. Enfin, il y a plein de gens qui croient au moins.
Oui, non, mais j'ai une bêtise.
La plupart des gens.
Il y a 10 000 ans d'ici, la pensée est maintenant. Elle est complexe. Non.
À un moment donné, dans l'histoire humaine, est apparu un sentiment d'individualité et de peur et de croyance en un moi. Et pourquoi, quand, comment, où?
Oui, voilà, ça, il n'y aura pas de réponse, j'imagine.
Je pourrais dire que c'est l'intelligence de la vie qui se manifeste comme ça, jusqu'au jour où ça va passer autre chose. Peut-être ça correspond à un stade d'évolution de l'espèce humaine, je ne sais rien. Mais sauf que ça ne peut être vrai qu'au niveau existentiel, parce qu'en soi, tout cela n'est pas. Tout cela est vu comme transparent, j'allais dire, mais comme non étant, comme rien, comme. Tu vois, c'est comme.
Aléatoire.
Non. Même pas matériel.
Virtuel.
Ouais, virtuel, c'est bon.
C'est bon.
Tout est virtuel. Comme si toutes les. Excuse-moi, comme si toutes les images d'un rêve arrivaient tout en même temps. Tu vois? Voilà ce que c'est la vie. L'existence. Des images. Un film dans la bobine. Tu vois? Et il est déjà dans la bobine, le film. Puis on te le déroule, puis tu crois que c'est une histoire qui se passe. Puis parfois, tu rentres dans le rêve, et tu rentres dans le film, et tu vis avec les acteurs, tu vois? Mais en réalité, il ne se passe rien. Les images sont déjà dans la bobine. Et tu n'as jamais vu l'acteur du film sortir à la fin du film de l'écran. Ça n'arrivera jamais. Tu vois? C'est pas possible. Et là, et si tu veux, c'est un peu quelque chose comme ça. Sauf que, en plus, le film qu'on se joue là, qui en appelle l'existence, il est même pas, il est dans la bobine sans lettre, il n'y a pas de bobine. C'est-à-dire, tout arrive simultanément au même temps, hors temps, le temps et l'espace étant eux-mêmes une création au sein de ce qui est. Donc, pour ce qui est en amont de tout cela, avant tout avant, avant le temps et l'espace, passé, présent, futur, tout arrive au même instant. À chaque, on peut même pas dire milliardième de milliseconde, puisqu'il n'y a pas de temps.
C'est clair.
Mais c'est tout le temps. Tac, tac, tac. Et à un moment, tu vois ça. Ah, il n'y a rien. Tu peux juste dire, il n'y a rien là. Et en même temps, il y a tout. C'est les deux à la fois. Et c'est simultané. Et c'est pas séparé. Et c'est cela. Et c'est ce qui est. Simultanément. Tac, tac, tac.
Quand tu parles comme ça, tu sais ce que tu dis.
Non, j'ai la vente à mesure, je raconte une histoire. Évidemment, comment j'en parle, je suis en train de le percevoir, sinon.
C'est des mots pour moi.
Oui, mais c'est pour ça que j'en parle pas trop, tout ça, d'habitude. Évidemment, comment j'en parle, c'est là que je vous le dis parce que je suis en train de le percevoir, sinon ça n'a pas de sens. Voilà. C'est pour ça, excuse-moi, c'est pour ça que j'insiste tout le temps sur regarder les croyances, regarder l'idée d'un moi, parce que là on est dans du concret, dans ce qui est accessible facilement.
Allez, Elisabeth. C'est le concret, moi, qui m'intéresse. Tout ça, c'est bien joli, tout ce que tu racontes, mais comme Janine, moi, je suis toi. Moi, j'ai besoin de concret.
Mais c'est concret, je pense. Je pense que c'est concret pour certains.
C'est me dire, bon, ben voilà, garder les croyances.
Oui, ça c'est. Oui, oui. Oui, ouais, mais moi, des fois, ça m'amuse de parler un peu d'autre chose.
Parce que c'est virtuel, c'est jamais concret.
Non, mais ce qui t'en aime, ça reste pas. À mon avis, ça reste pas pratique aussi, le fait de.
Ah, mais peu importe. Chacun est appelé là où il est appelé. Tu vois? C'est complètement ok, il n'y a aucun souci. Mais c'est aussi la raison pour laquelle, généralement, j'insiste plus sur le regard tourné vers les croyances, vers la pensée moi, que le regard tourné vers ce qui est en amont de toute existence.
Oui, parce que là, je me fais encore un film. Tu vois?
Sauf que si quelque part.
Je me fais un film de ce que je devrais attendre dans la réalisation.
Ah, si c'est ce que tu devrais attendre dans la réalisation, ouais, sûrement. De toute façon, pour moi, il y a deux temps qui peuvent se télescoper, ça peut apparaître en même temps. Mais il y a deux temps, au moins. Le premier, c'est réaliser qu'il n'y a pas de moi. à partir de là, s'offre à nous l'opportunité de, toute souffrance, de la fin de toute souffrance. Le regard porté sur le reste de ce qui reste de l'ego, ça s'effondre et voilà. Et déjà, c'est au moins 98% de bonheur. Hein? En gros, je ne sais pas la statistique. Hein? Et ensuite, c'est-à-dire que cette réalisation, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Donc ça continue. Jusqu'au jour où d'abord il est vu, enfin ça peut être vu avant d'ailleurs, hein, où il est vu, puis réalisé que tout ça est illusoire, tout ça est virtuel. Ça, c'est, je pourrais appeler ça le second éveil, entre guillemets. Ça ne veut rien dire, hein, mais. D'accord ?
La libération, oui.
Mon fils,
bah, on n'est pas plus libre avec ça. Ouais, je sais pas.
C'est, pour moi, c'est quand même autre chose. Hein. C'est vraiment autre chose. Ouais. Mais le premier suffit, notre bonheur, à la fin de la recherche, en gros. Tu vois ? Et à mettre fin à tout ça. C'est ça qui est le plus important, le plus accessible, le plus facile. Mais je ne veux pas faire la passe sur le second, ce serait vraiment dommage. Et là, si tu veux, je rebondis par rapport à ce que disait Luc. Il en a déjà parlé un peu ce matin, il en reparle cet après-midi, donc j'y vais. Et en même temps, si tu dis, ah, c'est ça que je dois atteindre, c'est dommage, parce que tu risques de vouloir tout de suite aller là, que d'abord, passons à la première étape, après on verra, tu vois. Et surtout, par contre, si quand je parle, ces paroles, ça fait effet, c'est comme une vague, ou comme, oh punaise, ah, oh, ouh. Même si tu ne sais pas ce qui se passe, bah, c'est que ça travaille. C'est que ça réveille ce que tu sais être, même si tu ne sais pas que tu le sais. Et c'est là où l'intérêt d'en parler. Entre guillemets, parce que en fait, tout ça sert à rien, il n'y a rien.
En même temps, si le premier coup c'était une croyance collectivement fausse, si on remet une croyance collectivement un peu plus vraie dans l'histoire, ça va en rester propre peut-être moins longtemps coincé dans le machin. Parce que...
Peut-être, mais en attendant, tout ce que tu auras fait, c'est rajouter une croyance.
Oui, oui, je ne voulais pas dire enlever, mais. Tu dois au moins avoir un choix dans la croyance, d'un point de vue logique. Tu vois,
non.
Pour que le mental qui est coincé puisse.
Mais on en parlait à midi, je crois que c'était à midi. C'était, mais on pourrait rajouter la croyance qu'il n'y a pas de moi.
Mais c'est une croyance. Ça,
c'est une croyance. Mais n'empêche que la croyance de fond, il y a un moi, même si tu veux croire qu'il n'y a pas de moi, elle demeure, elle est quand même agissante.
C'est plus la possibilité.
Voilà, ouvrir la possibilité que ce soit vrai. Ça, oui. Ben, s'il n'y avait pas la possibilité ouverte, vous seriez déjà parti.
Ben, on ne sait même pas là, parce que c'est quelque part, on est en train de.
Il y en a qui se trompent d'endroit et qui viennent. Hein. Il y en a qui se trompent d'endroit et qui viennent et qui repartent. Ça arrive.
Il y en a qui quoi ? Ah, qui se trompent d'endroit. Ouais. La digestion. En fait, c'est aussi un peu comme quand on rêve la nuit. La nuit, on fait toutes sortes de choses, puis quand on se réveille, on n'a pas bougé de son lit.
Ben oui. Et pourtant, tu as peut-être transpiré de peur et tu as vraiment cru qu'il y avait un
autre. Tu l'as vraiment vécu.
Tu l'as vraiment vécu. Et si tu regardes, le monde du rêve la nuit apparaît d'un coup. Le rêve se déroule, apparemment. Et le monde du rêve disparaît d'un coup. Et quand tu te réveilles, ce monde de rêve apparaît d'un coup. Et quand tu t'endors le soir, ce monde de rêve disparaît d'un coup. Et entre les deux, tu as l'impression de vivre quelque chose. Mais quel est le rêve ? Et s'il n'y avait aucun des deux qui était vraiment réel, définitivement réel, parce que le rêve est réel, tu rêves réellement,
tu vois,
donc on ne peut pas dire que ce n'est pas réel, mais ce n'est pas définitivement réel. Et cette réalité, c'est la même chose, elle est réelle, mais elle n'est pas définitivement réelle.
On n'a pas mangé les kiffs à midi.
Si, on a mangé les kiffs à midi.
On l'a rêvé.
Maintenant, je rêve que je dis je rêve.
Et augmentation de poids, elle veut dire tu l'aimes aussi.
C'est les deux à la fois. Et tu l'as mangé et tu ne l'as pas mangé. Et il n'y a pas de moi qui a pu le manger. Et etc. Toi, c'est express la confusion.
Le corps a transformé.
Le corps qui a mangé ça. Il était bien content.
Mais ce corps est virtuel autant que la nourriture que tu as mangée. Le plaisir est virtuel. La nuit, quand tu dors, tu peux avoir aussi du plaisir. Il est virtuel. En plus, mais il suffit de stimuler certaines régions du cerveau pour créer du plaisir. Ça t'est jamais arrivé que t'allais aux toilettes dans un rêve?
Ah si, ça dépend.
Là, le rêve va rejoindre cette réalité existentielle et virtuelle.
Je suis donc je suis.
Je suis.
Ça existe. Ça existe. Passé, présent, futur, ça existe au niveau existentiel.
Tu comprends ça?
Oui.
Moi, je ne le saisis pas.
Mais tu ne le saisis pas.
Comment est-ce que tu peux dire que maintenant, on vit le passé, le présent, le futur?
Non, là maintenant, tu vis le présent.
Non, on est en même temps.
Mais pas en tant que toi, Janine, dans le monde. Toi, Janine, dans le monde, tu es prise par l'illusion du temps, donc tu crois réellement que tu es là dans le présent. Quand tu rêves, tu crois réellement que ton rêve est vrai.
D'accord, donc je ne peux pas comprendre.
Le comprendre, sûrement pas. Tu peux le réaliser, tu peux en avoir une prise de conscience, une vision, mais le comprendre, non. Si tu peux peut-être le croire, le comprendre, je ne suis pas sûr, je vois pas comment le comprendre. Mais il est clairement dit, par exemple, dans la Bible, que Dieu a tout créé, le temps et l'espace aussi, quoi.
Oui, je sais bien.
Donc il est avant le temps. Pour Dieu, si Dieu a créé le temps et l'espace, lui, il préhait au temps. Donc pour lui, il voit la rivière du temps devant lui, et tout est arrivé en même temps.
Nous, on doit voir ça aussi.
Mais non, tu ne dois pas le voir. Et sûrement pas toi, Janine.
Et pourquoi pas?
Parce que Janine se prend pour un organisme corps mental dans le monde, prise dans le temps.
Oui, ça aussi, mais il y a autre chose aussi.
Oui, il n'y a que ce qui est qui peut percevoir ça.
Ouais,
oui. Et en tant que ce que tu es, tu apparais en tant que Janine et en tant que Pierre, Luc, Gérard, etc.
Ça, je peux pas être maintenant.
Mais tu l'es de toute façon, que tu en aies conscience ou non.
Mais le mental, il va
pas. Je voudrais comprendre ce que ça veut dire.
Qu'est-ce que tu voudrais comprendre là?
C'est quoi le temps, le passé?
Toujours l'histoire du temps?
Oui.
Mais tu le comprends quand je te dis. C'est Dieu qui a créé l'espace et le temps.
Oui.
Là, tu le comprends, mais tu ne peux pas le réaliser. Tu ne peux même pas le voir. Tu le comprends intellectuellement.
Oui, mais je ne peux pas sentir.
Non. Pas en tant que Janine. C'est quelque chose qui est fait, qui va un jour arriver au sein de l'organisme Janine, mais tu ne peux pas le créer.
Et quand tu es, par exemple, un peu handicapé et que tout d'un coup, tu sais, dans la tête, tu vis un sort. Tout d'un coup, tu enlèves cette pensée et tu te sens très très bien.
Exact.
Ça n'a aucune importance.
Oui. Oui. Ben, ça se décolle de l'identification à la croyance je suis handicapé. Du coup, ça ne sait plus qui est handicap.
Et ça n'a rien à voir.
Et le handicap ou l'absence de handicap ou ce qui arrive, arrive au sein de cette conscience présence. Il n'y a plus identification, il n'y a plus accrochage, il n'y a plus saisie de la pensée « je suis handicapé », identification à cette idée.
Il n'a rien à voir avec le temps.
Qui est prise dans le temps,
oui.
Qui apparaît au sein du temps, enfin au sein de la rivière du temps, au sein de ce qu'on croit être le temps. Et évidemment que quand je dis par exemple « essayez d'arrêter d'être » et vous êtes renvoyé à l'être T, « ah, je ne peux pas arrêter d'être », l'être T déjà, elle est hors temps quelque part. Que vous alliez bien ou mal, que vous soyez jeune ou vieux, homme ou femme, quoi qu'il vous arrive, qu'on vous coupe un bras, que vous soyez entière, handicapé ou pas, je suis l'être TLA, quoi.
Et qu'est-ce qui fait qu'on est tous comme ça? On est.
Oui.
On est.
Oui.
Et on ne sait pas y arriver. Qu'est-ce que c'est cette histoire?
On
ne
sait pas comment.
On ne sait pas arriver à être, mais on est tous.
Tu l'es. je ne peux pas arrêter.
Mais on ne réalise pas du tout avant qu'on l'ait.
Oui.
C'est quoi ça? Pourquoi ça?
Alors, déjà, tu ne peux pas, s'il vous plaît, tu ne peux pas arriver à être ce que tu es, tu l'es. Donc, tu ne peux pas arriver à l'être. Oui. Parce que tu es prise par des pensées crues, par des croyances. Tu crois que tu n'es pas ce que tu es.
Je crois, mais ça, c'est une explication.
Oui.
Comment ça se fait que personne peut, parce qu'on se complique la vie à ce point-là, tout le temps, et qu'on n'arrive pas tout simplement à vivre ce qu'on est.
Ce jeu.
Tu le vis, tu le vis, mais ce n'est pas conscientisé. Tu ne peux pas ne pas être ce que
d'accord,
tu es.
D'accord, mais comment ça se fait que c'est pas comme ça? C'est bizarre quand même.
Ça arrive.
Mais ça arrive à tout le monde.
Pas beaucoup en tout cas.
Mais qu'est-ce qui a fait ce truc? Qu'est-ce
qui a fait ça? Ça arrive.
Il s'est trompé quand même.
C'est vrai, des fois on a envie de dire il s'est trompé lourdement. Ça arrive. C'est-à-dire que, si tu veux, ta question provient d'un mal-être. Si, quand tu vas très bien, tu ne poses pas ce genre de questions.
Pourquoi je suis heureux dans une
chambre?
Oui, mais quand tu vas très bien, tu es juste tranquille, à regarder la beauté d'un paysage, tu ne poses plus ces questions. Ces questions proviennent d'un mal-être. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le mal-être et quelle est la pensée crue qui crée ce mal-être à cet instant précis.
C'est l'entretien.
C'est la séparation depuis la naissance.
Par exemple, l'idée de séparation. Par exemple, une idée. Mais c'est qu'une idée de séparation. Alors, dans ce cas-là, il y a besoin de regarder l'idée de séparation. Dans ce cas-là, il y a besoin de regarder l'idée de séparation. Qu'est-ce qui fait croire qu'on est séparé? C'est une illusion. Ok, mais qu'est-ce qui fait croire en cette illusion? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait croire au manque? En réalité, il y a une pensée de séparation. Il y a une pensée de manque. Et ces pensées sont crues sans être regardées. Sans être regardées. Sont crues de façon automatique. Donc, regardez la pensée. Est-ce que réellement je suis séparé? Non. Est-ce que réellement il y a un manque? Et si oui, il est où? Fait de quoi?
Il est fabriqué.
Donc, il n'y a pas de manque et il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas ces idées-là. Parce que dire il n'y a pas de manque, pas de séparation, c'est encore une pensée de non-manque et de non-séparation. C'est trop aussi.
Ça ne suffit pas de séparer
ça. Ça ne suffit pas.
Ça va être...
Et alors, comment ça se fait que ça ne suffit pas de voir qu'il n'y a pas de manque et pas de séparation?
Parce qu'il y a la pensée,
qu'est-ce qui manque encore, je vais dire? Alors reste avec. Là maintenant tout de suite, reste avec ce qui est là maintenant. Qu'est-ce que tu ressens là maintenant tout de suite?
Un chagrin.
Un chagrin. Reste avec le chagrin. Oui, j'aime beaucoup ce chagrin. J'aime beaucoup ce chagrin, moi. Il me va droit au cœur. Reste avec ce chagrin. Il est très beau ce chagrin. Est-ce que tu sens comme tu luttes contre le chagrin?
Quoi?
Tu luttes contre le chagrin? Comme tu as peur du chagrin? Tu le laisses complètement t'envahir le chagrin? Pas devant tout le monde, hein, ça se fait pas. Laisse tomber toutes ces bêtises.
Non.
Tu veux vraiment savoir ou tu veux pas vraiment savoir? Alors vas-y, ose ton chagrin. Partage-le-moi, partage-le-nous. Pardon?
C'est
trop tard. Il y en a déjà plus, non?
Je l'ai retenu.
Et pourquoi est-ce que tu l'as retenu? Qu'est-ce qui a fait que tu l'as retenu?
C'est ridicule de pleurer devant tout le monde.
Donc, il y a une croyance. C'est ridicule de pleurer devant tout le monde. Et cette croyance bloque le processus naturel de la vie qui est, il y a le chagrin, il s'exprime, il se montre. Et après, il n'y en a plus. Regarde les enfants. Ils ont un gros chagrin. Ouh, ils pleurent, ils serrent dans les bras. Deux minutes après, ils sont partis jouer. C'est étonnant. Pourquoi? Parce qu'ils ne bloquent pas le chagrin. Ils s'expriment, ils pleurent beaucoup, c'est fini. Et nous, on est là. Il ne faut pas. Alors, le chagrin, il reste parce que jamais il est exprimé. Jamais il est accueilli pleinement. Jamais il est vécu pleinement. Pourtant, Dieu sait s'il est beau, ton chagrin. Ce serait sympa de mettre vos téléphones au moins en silencieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est refusé. C'est mis de côté. C'est il n'en faut pas. C'est je veux pas. C'est, tu vois, toutes ces choses-là, ce sont des pensées qui ont une action, donc qui sont crues quelque part, parce qu'elles sont agissantes. C'est la preuve qu'elles sont crues. Voilà, s'il n'y avait pas la peur du ridicule, tu te serais laissé aller. Tu aurais pu voir la beauté du chagrin, de ton chagrin. Moi, je l'ai perçu. Ben oui, c'est ça le problème. Toi, tu le juges mal. C'est ridicule. Voilà. Et cette pensée-là, crue, crée ta souffrance. C'est pas le chagrin qui est souffrant. C'est l'idée du ridicule. C'est l'idée crue du ridicule. C'est pas le chagrin. Parce que le chagrin, si tu regardes juste le chagrin qui oublie toutes les pensées, c'est doux. C'est une vraie libération. Quand tu veux, tu pleures.
En fait, quand tu disais on regarde une pensée, quand c'est une pensée qui me veut, j'en prenais quelques-unes. Là, c'est pas tellement la pensée qui me veut, c'est que quand je vais à cet endroit-là et que je me mets dessus, il y a en même temps une sensation qui est agréable, qui est associée. C'est ça où j'ai pas envie, je la sens trop forte, etc. Et c'est pas la pensée, c'est l'association qui associe que je n'ai pas envie d'aller voir maintenant. Enfin, pour remettre le point qu'il y a le sentiment ou la sensation associée. Parce que la pensée, elle est un peu volatile, comme ça, elle ne m'impacte pas, je ne la sens pas. Mais derrière, il y a une émotion, et celle-là, je la sens. Et souvent négativement, c'est pour ça qu'il ne faut pas écouter ma pensée.
Oui, la pensée crée des sensations physiques qui peuvent aller jusqu'à l'émotion, effectivement. Oui. Et tu peux partir du corps, ou tu peux partir de la pensée, ou en tout cas, à un moment donné, il y aura besoin de voir le plus souvent, il y a besoin de voir la pensée crue, et de voir qu'elle est fallacieuse, qu'elle est erronée, qu'elle est fausse, quoi. Et c'est seulement à ce moment-là, généralement, que ça s'effondre. Généralement.
Je crois que j'ai trouvé la clé, moi, c'est le ridicule.
Ouais. Mais oui. Et voilà. Non, mais va pas plus loin que là où elle va. Ça n'a pas d'importance. Oui, il y a juste l'idée du ridicule cru qui fait que du coup on s'empêche de vivre. Et du coup, tu peux pas être heureuse.
Moi, tu peux pas être.
Non, faut pas être à la hauteur. Ça n'a juste pas de sens. Tu es ce que tu es. Il n'y a rien à défendre. Il n'y a rien à défendre. Il n'y a rien à être de particulier. Il n'y a pas. Il n'y a rien. C'est pas la peine. C'est pas la peine.
Finalement, les croyances, c'est comme si on mettait des passages dans la prière. On l'empêche
tout. Oui, exact. Comme une barrage, tu vas mettre des barrages dans une rivière. Sauf que l'eau elle va quand même couler, mais elle va commencer à aller de gauche à droite et à tout inonder, et ça va être un peu la catastrophe. Alors qu'elle s'écoule naturellement dans son lit, si on fait rien. C'est un bel exemple.
Qu'en est-il de pensées inconscientes? Parce que je me suis souvent posé cette question-là, je me dis, bon, les pensées...
Beaucoup de pensées sont inconscientes.
La plupart, justement, par exemple, pardonnant...
Mais de même que les sensations, beaucoup de sensations sont inconscientes. Regardez votre corps, là, maintenant, il y a plein de sensations en permanence.
Oui.
En En permanence, il y a plein de sensations dont on ne se préoccupe pas. Et en permanence, il y a plein de pensées dont on ne se préoccupe pas.
Je me dis, tu vois, c'est les pensées crues. Ok, quand elles sont conscientes, quand elles sont inconscientes, on les croit aussi.
Il y a des pensées crues complètement inconscientes, comme la peur du ridicule qui te bloque complètement. Ça peut être inconscient jusqu'au moment où c'est vu.
Et doucement, ça que je me dis, d'ailleurs, à mon âge, une vasque énorme de pensées inconscientes. Surtout à mon âge.
Et surtout toi.
Surtout à mon âge, surtout en tant que femme, surtout blonde.
En plus blonde, ma pauvre.
En fait, on se cumule tout. Enfin, ça marche pas la seule.
Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est pas grave.
Rien. Donc moi, ce qui m'inquiétait, c'était les pensées inconscientes. Moi, je n'ai pas conscience, justement.
Mais tu vois, même les pensées conscientes, même les pensées conscientes, quand elles sont crues, on n'en prend pas la mesure. Tu viens de dire, moi, ce qui m'inquiète, c'est que. Mais je m'inquiète des pensées inconscientes. C'est une pensée crue.
Oui, ça, je peux.
Et tu la nommes, mais tu la vois pas comme étant ce qu'elle est, une simple pensée crue.
Merci de faire le miroir et de me la renvoyer.
C'est-à-dire, même quand elles sont conscientes, même quand elles sont partagées, elles ne sont pas vues pour ce qu'elles sont. Ben, la pensée moi est par excellence. Combien de fois on dit moi en croyant que c'est vrai? Elle est vue, à chaque fois elle est vue. On dit moi, c'est bien que c'est vu. Mais à jamais on regarde, mais c'est quoi ce moi au fait? De quoi il est fait ce moi? Il est où ce moi? Montrez-moi un moi.
Ici.
Ah oui. Il est où ici?
On a envie de dire ça.
Bah oui, bien sûr, on a envie de dire ça. Et c'est moi, c'est là, là, là. Moi. Mais alors, t'es un corps?
Pas que ça.
Pas que ça?
En partie.
Mais alors, t'es quoi? C'est quoi moi?
Il y a quand même plus qu'une pensée. Hein.
Oui, il y a une sensation.
Une sensation.
Il y a une sensation. Où? Là, maintenant, tout de suite. Là. Ouais, ici.
En ce moment, il y a toi et moi.
Non, mais la sensation de moi, chez toi, Marie-Josée, elle est où? Là, maintenant, tout de suite. Tu te dis, il y a une sensation dans le corps. Où dans le corps?
Pas localisé.
Pas localisé, dans tout le corps, partout.
Oui.
Et même peut-être
même autour.
Et même autour du corps. Donc elle n'est pas corporelle seulement.
Non, enfin. Les corps subtils.
Ouais, enlève-moi tous ces mots, t'en sais rien.
Mais quand on arrive à faire taire le petit perroquet là. Il n'y a plus de limite au corps, on est immense.
Ce qui est englobe l'univers entier.
Donc tout. Et quand ça se tait, là, on le sent.
Tu peux le sentir. Tu peux le ressentir. Tu peux le vivre.
Mais
c'est qui a une certaine expansion?
Le on.
C'est le moi?
C'est on.
Non, mais c'est moi?
En ce moment, j'ai l'impression que c'est moi.
Alors, est-ce que cette sensation physique, s'il vous plaît, est-ce que cette sensation physique qui englobe tout le corps et qui s'étend au-delà du corps, pense par elle-même?
Non, il y a des pensées en tout cas qui peuvent venir.
Il y a des pensées qui apparaissent au sein de ça. Oui. Est-ce que cette sensation physique fait des choix?
La pensée qui m'est venue là, qui est venue, c'est je pourrais pouvoir partir peut-être. Je pourrais choisir de partir.
Oui.
Et je peux choisir de rester.
C'est une pensée qui apparaît.
Oui, c'est une pensée.
Mais est-ce qu'il y a un choix qui est fait?
Bah, je ne pars pas en tout cas.
Donc,
t'as les clés, on a
donc ça s'impose de soi-même. Ça s'impose de soi-même. Et donc même les actes qui étaient la troisième question, est-ce qu'elle fait pose des actes, cette sensation? Ah ben non, le corps reste là de fait.
Le corps reste là.
Donc ce que tu appelles moi, cette sensation physique, est-ce qu'elle se vit séparée, cette sensation physique?
Séparée des images, en tout cas.
La sensation physique se sent séparée.
C'est difficile à répondre.
Elle se sentirait séparée de quoi, cette sensation physique?
Séparée de rien.
Je dirais comme Luc, elle n'est pas partagée. Je ne sais pas la partager.
Si je la ressens.
Mais ok, tu sais peut-être pas en parler, mais est-ce qu'elle est séparée? Est-ce que la sensation physique que tu appelles moi se sent séparée du reste de l'univers, du monde qui t'environne?
Il n'y a pas d'univers dans cette sensation.
Alors, est-ce qu'il y a même une idée de séparation?
Il n'y a pas ces choses-là.
Il n'y a pas ces choses-là.
Ouais.
Donc, c'est pas cette sensation, ce que tu appelles moi, n'est pas un individu séparé qui fait des choix, qui pense par lui-même et qui a des pensées, qui pense. Mmh. Et qui agit par lui-même, qui fait aussi ça.
C'est un autre moi. Enfin, c'est pas le moi.
Est-ce que cette sensation s'étiquette elle-même moi?
Là, je parle pas du moi.
Oui, je sais, ben évidemment.
Le langage.
Est-ce que cette sensation ça s'étiquette elle-même moi? C'est elle qui s'appelle moi?
C'est une sensation.
C'est une sensation.
Oui.
C'est une simple sensation.
Oui, qui est agréable, tout.
Oui.
En ce moment.
Oui, oui. Et maintenant, en plus, donc ça ne correspond pas aux critères du moi que je définissais tout à l'heure. Qui
c'est
pense par lui-même, qui agit par lui-même, qui a fait des choix.
C'est pas le moi du langage.
Pardon?
C'est pas le moi, moi, toi, non. Non. Pas le moi du langage.
Ben un peu aussi, à mon avis, justement. Enfin, peu importe, on va voir. Mais en tout cas, cette sensation, elle est constatée.
Oui.
Qu'est-ce qui la constate?
Une conscience.
Une conscience. Et qu'est-ce que tu es le plus? Qu'es-tu en réalité? Est-ce que tu es une sensation? Ou est-ce que tu es plutôt la conscience qui constate la sensation?
Les deux.
Les deux.
Il n'y a pas de séparation.
Est-ce que cette conscience qui constate la sensation s'étiquette moi, elle-même? Non.
Elle ne s'étiquette pas.
Elle ne s'étiquette pas.
Ouais, c'est plutôt ça. Si je dois l'étiqueter, je vais dire moi.
Voilà, si on doit mettre un phonème dessus pour pouvoir partager avec c'est les autres de ce dont on parle, on va mettre moi. Mm-hmm. C'est juste une facilité langagière.
Oui.
Mais ce n'est pas un individu séparé.
Non.
Où est ce moi qui prétend exister, être un individu séparé, qui pense par lui-même, qui pose des actes par lui-même, qui agit par lui-même? Est-ce que tu en vois un?
Non.
Non. Qu'est-ce qui fait croire qu'il y en a un? Puisque tu n'en vois pas.
Tout ce qu'on dit.
Tout ce qu'on dit. C'est une croyance.
Une confusion, le manque de discernement, en fait. Tout cet exercice qui vient d'être fait. C'est parce qu'on ne le fait pas d'habitude.
Mais exactement.
On fait ça tout le temps.
C'est exactement. On prend pour acquis des choses qui ne le sont pas du tout. Oui, comme on prenait pour acquis que la Terre était plate.
Ouais.
Et que le soleil, que la Terre était plate et que le Soleil tournait autour. C'était pris pour acquis, mais c'était quand même pas vrai.
En plus que c'était le centre de l'univers.
Voilà.
En fait, je voulais pas dire, en fait, comme on dit, je serais pas la troisième personne, il, et venant de là, ça dit ça.
Ouais. Bon, très bien.
ou là, là. De là, on dit ça.
Oui, exact, exact. Mais souvent, je dis ici. C'est ça qui s'exprime.
C'est ce qui est le plus juste, c'est cette seule localisation.
Oui.
Moins pire.
Encore que ça présuppose une localisation, qui en fait est illusoire aussi.
Oui, oui, mais elle est quand même. Parce que.
Elle apparaît.
Sur la trame de qui n'est pas localisée, il y a quand même. Enfin, l'image que ça m'en fait, c'est quoi ? Une petite boule de densité, là, enfin un peu plus grosse, qui est ressentie comme les sensations.
Exact.
Et que celle-là, et que. Qui n'est pas la même sensation que là.
Aussi, quelque part, la sensation ouais, est la même. En fait, en plus, la sensation, ces sensations-là, ouais. est la même pour tous.
Oui, mais je la sens différente. Quand je m'étends, je ne la sens pas de la même manière que vous allez créer.
Mais parce qu'après, tu l'identifies à ton organisme.
Oui, c'est ça. C'est
vrai. Mais c'est un après-coup. C'est un après-coup. Parce que tout d'un coup, ça devient moi. Luc dans le monde, avec ma forme physique, étant un homme, etc., etc., mon histoire. Mais enlève tout ça, il reste juste une sensation, elle n'est pas différente. C'est je suis. C'est la sensation procurée par je suis, je dirais. Mais maintenant, Marie-Josée, que tu vois qu'il n'y a pas de moi, que tu entreaperçois qu'il n'y a pas de moi, qu'il y a juste une sensation étiquetée moi, une présence consciente de cette sensation, qui peut s'appeler moi, mais qui n'en a rien à faire, mais qui ne choisit pas, qui ne pose pas d'acte, qui ne pense pas par elle-même, si tu restes avec ça, il y a une conscience-présence avec des sensations, ça ne s'étiquette pas, c'est... Quelle conclusion vas-tu en tirer par rapport à tout le reste? Qu'est-ce qui reste de ton histoire personnelle? Qu'est-ce qui reste de tes croyances, de ton système de pensée, de fonctionnement? Les autres, vous pouvez poser la question aussi, vous avez fait le chemin. Mm-hmm. C'est pas grand-chose. Hein.
Ben moi, je sais que, bon, par exemple, mon téléphone a sonné. Il y a une petite roi machine qui dit, et si c'était...
Grave.
Ouais. C'est pas grave, non.
C'est important.
Si c'était entre oui. mon fils, oui, oui. parce que j'ai une identification mère qui... C'est là, quand elle vient, elle me prend.
Oui, mais elle apparaît.
Oui.
Elle apparaît, elle est elle constatée apparaît. Au sein de cet espace.
C'est costaud, quoi.
Mais elle apparaît... Elle est constatée. Ceux-là qui constatent cette identification au rôle de mère, c'est la même chose.
Oui.
Est-ce que ça met fin à la sensation dont tu parlais tout à l'heure? Oui ou non? Oui. Est-ce que ça vient se surimposer à cette sensation ou est-ce que ça y met fin?
Non, est-ce que ça vient se surimposer?
Se surimposer à la sensation. Il y a la sensation globale et quelque part il vient la sensation rôle de mère en plus ou est-ce que ça vient à la place de?
En ce moment-ci, ça vient dedans. Mais quand je suis complètement dedans, enfin prise par ça.
Tu oublies même que tu constates ce rôle de
oui,
mère,
oui,
cette
oui.
identification. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas constaté. Et ça ne veut pas dire que ce que tu es, que ce je suis disparaît. Que l'être-té disparaît.
Non, ça ne veut pas dire que ça disparaît, mais c'est plus palpable.
C'est plus palpable. Ce n'est plus vécu, ce n'est plus expérimenté. Mm-hmm. Mais tu n'as pas besoin d'expérimenter ce que tu es pour l'être. Tu comprends?
C'est-à-dire que ça ne fait pas le même effet.
Ah, si, ça ne fait pas le même effet. Mais je l'ai déjà dit au moins 4 fois. Mais tout d'un coup, ça fait plus. C'est génial. C'est... Mais oui.
Une cinquième fois, Gérard.
Tu n'as pas besoin d'expérimenter ce que tu es. Pour l'être, tu l'es. Que tu en aies conscience ou non, que tu l'aies vive ou non, que tu l'expérimentes ou non. Tu es ce que tu es. Tu ne peux pas ne pas être ce que tu es, mm-hmm. avec ou sans la conscience de l'être.
Mais c'est quand même tout à fait différent.
L'expérience est différente. L'expérience est différente. Mais es-tu une expérience ou es-tu cela qui constate l'expérience? Et encore en amont, cela qui constate ce qui constate les expériences.
Mais selon ta connaissance, la manière d'être dans le monde, dans ce qui semble être, sera complètement différente.
Et voilà. C'est pour ça que c'est moi qui suis assis sur cette chaise.
Tu vas aller t'asseoir sur la chaise.
C'est la seule différence. Il y a une pensée crue en moi. Qui fait que du coup, l'expérience est complètement différente.
Et la manière d'exprimer ou d'être est complètement différente aussi.
Et en même temps, elle ressemble complètement à ce que fait tout le monde.
Oui. Il a mangé comme nous à midi.
Voilà.
Il a beaucoup mangé.
Avec un grand plaisir. Rien change d'une certaine manière et tout change d'une autre manière. C'est-à-dire, ce qui arrive est exactement le même, mais l'expérience qu'on en fait est différente. C'est plus pollué par la croyance, par des croyances.
D'un côté, on contrôle, et de l'autre, on accueille.
D'un côté, on croit qu'on contrôle, et de l'autre côté, c'est accueilli. J'accueille rien. C'est accueilli. Et même le refus est accueilli. Parce que parfois, ça refuse. C'est accueilli.
Quand tu dis ça recule, de quoi
ça refuse. Parfois ça refuse.
Si c'était pas accueilli, ça pourrait pas refuser. Je veux dire, ça serait pas là.
De toute façon, tout est accueilli de fait. En amont de toute personnalité, tout est accueilli de fait. Exact.
Voilà.
Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réaction, parce que même entre les plantes, il y a des réactions. Il y a des attirances aussi. Il y a des plantes qui passent mieux près d'autres plantes, il y en a qui s'en écartent, enfin, etc. C'est vivant aussi.
Mais je suis présent.
Est-ce que tu peux parler de l'amour?
L'amour?
Oui.
Tu es l'amour même.
L'amour, c'est... Tout d'abord, on parlait de tout est illusoire. Alors, l'amour, la peur, tout ça, ce sont des mots inventés.
Ah, tu parles de l'amour par opposition à la haine?
Non, pas par opposition, je citais ça comme ça, par exemple. On parle de cet amour vrai. En fait, pour l'amour vrai, c'est cette énergie qui est en nous déjà.
C'est ce que tu es.
C'est ce que je suis, voilà.
C'est pas une énergie qui est en toi, c'est ce que tu es. Sous-entendu, tu n'as pas besoin de chercher à développer l'amour. Tu es l'amour. Je travaille en moins.
Mais ce qui occulte qui je suis, ce n'est que le moi qui s'approche.
Tu n'as pas besoin de faire l'expérience de ce que tu es pour l'être. Tu n'as pas besoin de faire l'expérience de l'amour pour être l'amour. Tu l'es de fait. Même si l'expression ici maintenant est celle de la haine, tu es l'amour. Alors tu le fuis. Parce que dès l'instant où tu veux quelque chose, tu t'écartes de ce que tu es, parce que tu crées une tension vers quelque chose, et illusoirement, tu t'éloignes de toi-même.
D'accord. Mais comment toi tu as fait le switch là, quand toi tu t'es rendu compte que c'était illusoire, tu as tout de même senti la différence. Tu l'es, d'accord, mais...
L'expérience que je fais aujourd'hui de ce que je suis en tant qu'amour, paix, joie, bonheur, etc., est bien moindre dans l'ensemble qu'une expérience mystique. pour avoir fait plus d'une expérience mystique, mais ce ne sont que des expériences. Lors d'une expérience, tu peux faire l'expérience de, de ce qu'on va appeler l'amour inconditionnel ou la joie pure et sans objet, etc., etc. Sans contraire. Mais c'est une expérience. Ce n'est qu'une expérience qui n'a pas plus de valeur que l'expérience de la peur ou de n'importe quoi d'autre. Pas moins non plus.
Mais qu'on préfère.
Ce qui peut, que nous préférons. C'est vrai que c'est un reflet, on pourrait dire, plus proche de ce qui est que la haine. Il y a moins de voile, au moins apparemment. Mais c'est de toute façon, les deux sont de toute façon l'expression de ce que tu es, donc de l'amour.
Et ces expériences, alors c'est juste, entre guillemets, les sensations perçues dans le corps, par l'être, enfin par les différents objets.
Ce sont des sensations après coup, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Ou bien, je mange un bon plat, et ça fait du bien à l'organisme, aux papilles gustatives, c'est bon. C'est complètement factuel quelque part, et existentiel. Ou bien, l'amour que je suis se reflète plus clairement dans cet organisme, et ça ressent de l'amour ici.
C'est la cessation de l'opposition ou du refus, c'est ça ?
Non, non. Ce que je veux expliquer là, c'est que je suis l'amour lui-même. Pour que l'amour puisse être expérimenté sous une forme ou sous une autre, il y a besoin d'un organisme. Ouais. Sinon, il n'y a pas l'expérience de l'amour. Mais cette expérience de l'amour est en fait l'expression de l'amour que je suis. Alors que quand je mange quelque chose qui est bon, la sensation provient de l'aliment.
Non, ce n'est pas externe.
C'est-à-dire que si jamais j'aime quelqu'un, la sensation d'amour provient de l'objet sur lequel j'ai projeté l'amour. L'amour s'est projeté.
C'est
chose de plus existentiel.
Mais c'est peut-être pas vrai.
Bien sûr qu'à un autre niveau, c'est pas vrai. Ce que je veux souligner, c'est que l'expérience de l'amour inconditionnel est un après-coup.
C'est
le reflet dans l'organisme de quelque chose qui le précède et qui ne peut pas être connu.
Mais ce que je voulais me rendre compte là, c'est que ce que l'on ressent à ce moment-là, c'est des sensations, mais c'est des sensations de cesser de le bloquer ou de cesser de le refuser. C'est-à-dire que ça passe, c'est là de toute façon, mais au lieu d'aller me disperser à droite et à gauche, tout d'un coup, je regarde ce qui est et ça me crée une détente. Enfin, j'arrête de me contracter.
La détente se passe. Oui, c'est là où tu regardes, c'est là où le regard se pose. Si le regard se pose sur les objets, ça peut, et même s'il y a de l'amour qui est ressenti pour un objet, on reste au niveau existentiel. Si le regard s'appuie sur « je suis », il y a déjà plus de chances de ressentir un amour tranquille. Et si le regard se tourne vers ce qui constate « je suis », et tu peux appeler ça de l'amour, ou tu peux appeler ça autrement, ça n'a aucune espèce d'importance. T'es soufflé. Françoise, tu n'avais pas fini.
Non. Je veux dire que tant que ce moi était là, et par exemple, tout à l'heure, quand on avait la peur de mettre à la hauteur ou du ridicule, mais à ce moment-là, cet amour-là, tu l'es, mais tu ne peux pas le rayonner, quoi. Tu ne peux pas le. Il ne s'exprime pas.
Mais si, il rayonne en tant que la peur, en tant que la peur du ridicule, etc. Il n'y a pas de séparation.
C'est intéressant.
compris, l'amour est ridicule.
Ce qui est, ce qui est s'exprime en tant que peur du ridicule. Ce qui est s'exprime en tant que chagrin. Ce qui est s'exprime en tant que Janine, en tant que les lampes au plafond. Quoi d'autre? Oublie le mot problème. Ah bon? C'est une croyance.
Tu trouves que c'est pas ridicule, tu trouves que c'est agréable?
C'est amusant.
Tu trouves ça, vraiment pas.
C'est amusant. Mais regarde les clowns. C'est le ridicule qui est amusant. Le ridicule est amusant quand tu es là chez les autres, mais pas chez nous. C'est juste le regard qu'on porte dessus.
Mais c'est vrai, je peux être ridicule aussi de cette façon-là. Ça ne me dérange pas.
Eh ouais.
Quand je pleure, non, ça ne va pas. C'est trop ridicule.
Mais peu importe, ce que je veux te souligner, Janine, c'est que ce sont les croyances associées à ce qui arrive qui fait que tu mets une étiquette agréable, désagréable, mal ou bon. Tu comprends? C'est juste ça. S'il n'y a pas les étiquettes, tout est bon. Sans contraire. Sans contraire.
Tout est une chouette expérience.
Étonnante, amusante, merveilleuse, pleine d'amour. Tout est amour.
Oui, tout est amour et le chemin, en fait...
Il n'y en a pas.
Ça veut dire, il nous est montré dans la mesure, moi c'est comme ça que je le comprends, en accueillant tout ce qui est. Je sens de l'agréable, c'est...
Sauf qu'il n'y a personne qui peut accueillir.
Sauf qu'il n'y a personne qui... Oui.
Et que tu es l'accueil lui-même, et que tu es l'amour lui-même. Quelle est la distance et le chemin à parcourir de l'amour à l'amour?
Oui,
zéro. De l'accueil à l'accueil, zéro.
Mais je veux dire, pour moi, concrètement, là où je...
Non, non, pour toi, concrètement, laisse-toi entendre ça. Parce qu'au moment où tu l'entends, pour comme je le dis, blam, tout éclate. Tu es déjà l'accueil, tu es déjà l'amour. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour l'être? Rien. Et à ce moment-là, ah ouais, putain, oh, je suis déjà arrivé. Et là, le calme, il est déjà là. D'accord, dans un quart d'heure, dans trois minutes, tu te reprendras la tête. Mais là, tout de suite, c'est déjà là. Saisis cette occasion. Sinon, tu vas faire une stratégie de ce qui est dit. C'est dommage. Tu repars en quête, en recherche, en prise de tête. C'est pas la peine. Tu es déjà. J'aime bien ce hochement de tête, là. Tu vois que là, les considérations mentales s'effondrent, il n'y en a pas besoin. C'est déjà vide de tout ce dont on voudrait se débarrasser.
Tu ne vas pas lire ton livre?
Si, si. Moi, je m'en fiche, vous pouvez demander à Joël, je les oubliais ce matin avant de partir.
Non, mais il faut lire son livre parce que le problème, c'est qu'on oublie tout de suite. Enfin, on oublie très vite.
Ah, merci Anne.
C'est pour ça qu'il faut lire.
Merci Anne de faire la pub pour moi.
Mais pas seulement son livre. Hein,
la pub, hein. Je sais.
Mais c'est vrai, ce matin, je partais sans prendre les livres.
Ah oui.
Ah bon, vous m'en faites appris.
C'est Joël qui m'a dit, les livres.
Ça valait la peine de les apporter,
les portes.
Je trouve ça extraordinaire.
Bon, merci,
en
Françoise.
En fin de compte, selon moi, le moi, là, en fin de compte, j'ai fait la séparation entre ce qui me semblait être l'amour et ce qui me semblait être...
Pas l'amour.
Pas être à la hauteur, c'est magnifique, c'est tout ça.
Voilà.
Mais en fin de compte, quand tu dis que tout transparaît, l'amour est là dans tout, mais c'est génial.
Bah oui.
C'est une ouverture. C'est...
Enfin
c'est
libre.
C'est quelque chose
d'extraordinaire. Rien à rejeter.
Rien à rejeter. Il se manifeste dans ce là.
Voilà, et quelle liberté, hein.
Voilà.
Quelle tranquillité.
Quel soulagement.
Ah ouais.
C'est génial.
et le vendre à tous les autres aussi. Merci.
Parce que t'es pas venu il y a 20 ans que j'aurais compris ça.
Oui, c'est dommage. Il y a 20 ans, il n'aurait pas lu.
Ça aurait été différemment.
Il y a 20 ans, j'aurais pas tenu le discours.
Non, mais c'est vrai ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas une plaisanterie. On sait plein de choses. Je dis par la pierre, sur le chemin en allant au resto.
Il n'y a pas de chemin.
Il n'y a pas de chemin, enfin bon, sur la route, sur le trottoir. Je disais, mais voilà, j'ai mis un bouquin il y a quelques temps, quelques années, j'avais souligné plein de trucs que j'avais complètement oublié et je reprends là aujourd'hui. Enfin maintenant, pas aujourd'hui, mais ces temps-ci. Et puis je me dis, mais c'est bien, parce que j'ai l'impression de redécouvrir le livre. Je me dis, mais. J'ai quand même souligné plein de trucs déjà à l'époque. Donc je me dis, mais est-ce que j'avais pas compris? Est-ce que en fait j'ai oublié? On oublie?
Non, c'est saisi autrement. Alors, bah, depuis que ça s'est produit, mais t'as arrivé de relire des passages de différents bouquins d'enseignants, entre guillemets. Tu te dis, punaise, mais ils s'étaient dit, ils l'ont toujours dit, tout le monde l'a dit, tout le monde le dit en boucle.
Bah oui.
Tout le monde le dit en boucle, qu'il n'y a pas de moi. Tout le monde.
Ils ne disent pas comme ça. Tout le monde ne dit pas ça.
Tout le monde ne le dit pas comme ça. Oui, maintenant je dis, il n'y en a jamais eu.
Cartel, ce n'est pas ça. Michael. Ah, Michael.
Si vous lisez Ramana Maharshi, si vous lisez Isagarde Tamaraj, si vous lisez Tony Parsons, si vous lisez Jeff Foster, si vous lisez je ne sais pas qui.
Ramana.
Tous. Ils disent, il n'y en a pas. Ramana, il parlait de la pensée je. Il dit bien que c'est une pensée.
Ramana, il parle de la pensée je. Mais il parle aussi du « je ».
Mais avec un « j » majuscule.
Un grand « je ».
Parce que pareil, tu ne peux pas l'appeler autrement. À partir du moment où tu mets un phonème dessus, vu nos conventions langagières, on va dire « je ». Mais ce n'est plus la pensée « je ». C'est ce qui est en tant que « je ». Et il dit aussi « je suis » d'ailleurs. Il y a la pensée « je », il y a « je suis », il y a « je » avec un « j » majuscule. Il y a « agrippage »,« je suis », »,« ce qui est ». Même chose. C'est étiqueté différemment, c'est la même chose.
Il a dit je suis le corps. Ça, c'est Nisargadatta.
Voilà, ouais. Je suis le corps, enfin, je suis cet organisme que je crois être habituellement.
Et donc, pour toi, tu ne plus.
Ça peut arriver qu'il y ait une souffrance en termes de psycho-émotionnel, en douleur, bien sûr, si. Mais en termes de psycho-émotionnel, ça peut arriver. Ça veut dire qu'il y a une histoire qui colle, qui le plus souvent disparaît dans les 3 secondes. Parce que la pensée à l'origine de mal-être, même pas, le regard se pose dessus, il y a un mal-être, le regard se pose dessus, et souvent la pensée n'est même pas vue, ça disparaît, parce que c'est vu comme non-étant, comme une construction, ça disparaît.
C'est ce qui procure la libération.
Enfin, non, la libération est avant.
La liberté.
Tu es la liberté même, donc ça ne peut pas procurer la liberté. J'entends ce que tu veux dire, mais attends, c'est le mot.
Fixation un peu dessus, c'est un mot. Là, tu n'as pas de liberté à ce moment. Si tu la fais disparaître, la liberté, elle est très très vite.
C'est plus que ça. La liberté, elle est tout le temps là. Même quand quelque chose, même quand ça s'agrippe à quelque chose et qu'il y a un mal-être, le mal-être est bienvenu. Donc la liberté demeure.
Les premières.
La liberté est en amont, oui. Tu es la liberté.
Mais c'est l'amour, la liberté.
Oui, c'est exact. C'est la même chose. C'est-à-dire que même si ici il y a un mal-être existentiel qui apparaît, ça veut dire qu'il y a saisi, ça veut dire qu'il y a une pensée qui est crue, dans l'immense majorité des cas, c'est ah tiens, il y a un mal-être qui apparaît. Ah tiens. Le regard se pose dessus, c'est vu pour ce que c'est, comme non-étant. Soit la pensée est vue, soit simplement la sensation est accueillie pleinement. Et ça s'estompe tout de suite dans les quelques secondes. En quelques secondes, vraiment.
En quelques jours.
Il arrive que ça dure. Le plus long, ça a été 36 heures. 36 heures. Mais même quand ça a duré 36 heures, où là, il y avait un réel mal-être, mais c'était une histoire qui me collait vraiment à la peau, hein, c'était su que cette histoire était erronée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas prise complète. Il y avait juste incapacité à se décoller alors même que je savais que c'était faux. Juste, je savais, je ne voyais pas la pensée à l'origine de ça, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait au bout de 36 heures? J'ai téléphoné à quelqu'un qui aussi a vu qu'il n'y avait pas de moi. J'ai dit, écoute, j'ai un souci, j'arrive pas à voir, qu'est-ce qui se passe? Au bout de même pas 10 minutes, j'ai vu la pensée, j'ai éclaté de rire, c'était fini, depuis je ne sais plus de quoi il s'agissait. Mais n'allez pas croire que l'éveil, c'est l'absence de certaines choses. Tout est pré-accueilli.
S'il y a moins de tension, ton corps peut, par exemple, cette maladie, tu peux guérir spontanément.
Ou pas. Regarde le nombre d'éveillés qui sont morts d'un cancer.
Oui, donc ça, je suis d'accord. Oui, oui. Ça, Jean-Marc Montel dit le corps a son karma.
Bon, je ne sais même pas si on peut parler de karma, on peut parler de karma, mais peu importe, il a sa vie propre. De toute façon, tous les corps vont mourir, alors, a priori, peut-être pas tous, mais a priori, il y a bien des chances pour que ça arrive.
Non, mais si tu as brûlé la chandelle par les deux bouts avant de t'éveiller, et que ton corps a quand même bien trinqué.
Et puis il y en a, ils sont complètement guéris avec l'éveil, et puis d'autres, voilà. Ils ne guérissent jamais de l'éveil. Le corps ne guérit jamais après l'éveil, au contraire, il est plus malade qu'avant. Hein? Donc, il y a de tout. Arrêtez de croire qu'il y a des conditions à tout ça. Il n'y en a pas. Arrêtez de croire que ça va créer quelque chose ou enlever quelque chose. Il n'y a pas de règle.
Mais ça ne dépend pas de la volonté. C'est clair.
Ah oui, c'est évident. Quelle volonté ?
Il n'y a pas de volonté, finalement.
Ah non. Ah, s'il n'y a pas de contrôle.
C'est du cinéma, cette volonté.
Ah, oui. À un moment donné, il peut y avoir une volonté qui se manifeste.
Elle surgit, on a pensé.
Ça surgit.
On a pensé.
Ça peut prendre la forme d'une volonté, en tout cas.
Oui, parce que pour venir ici, il a fallu avoir la volonté de venir.
Non.
Non.
Ça s'est fait.
Ah, ça s'est fait, oui.
Moi, j'avais pas le choix.
Oui, déjà, tout à l'heure. Ah, oui.
Moi non plus. Ça se propose, ça accepte, puis c'est tout. Et ça se propose pas, ça accepte pas, enfin voilà, quoi.
Quand ça refuse, c'est pareil.
C'est pareil.
Moi, ce qui m'inquiétait il y a assez longtemps que ça, c'était toutes ces fabulations au sujet de l'éveil. Et je me disais, qu'est-ce que je vais faire si j'arrive à cet éveil? Qu'est-ce qu'elle m'arrive à devenir et je vais devoir tout laisser tomber? Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais vivre? Voilà.
Non. Généralement, la vie continue comme avant. Il n'y a jamais eu de moi. Réaliser qu'il n'y a pas de moi, ça ne va pas tout changer. Si tu es bien avec un homme, ton mari, je ne sais pas quoi, pourquoi tu ne serais plus bien? Si tu as des enfants, pourquoi tu arrêterais de t'en occuper? Ça n'a pas de sens. Si tu as un travail, pourquoi tu arrêterais ce travail?
Mais ta relation change quand même par rapport aux autres. Parce qu'il n'y a plus de jeu qui se... les jeux ne se font plus à ce moment-là.
Il y a moins de jeux, c'est vrai. Mais tu peux toujours les jouer, les rôles. Tu peux toujours jouer.
Consciemment.
Oui, tu peux t'amuser, ça, oui. Si ça te paraît opportun à un moment donné, tu peux le jouer.
C'est pour plein de stages. C'est une forme de conscience,
beaucoup plus de conscience, oui. Toute conscience, je ne sais pas tout le temps, mais je m'en fiche, ça n'a pas d'importance. Ça se joue. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, il y a des jeux à jouer. Bon, on les joue, quel problème? Pourquoi on ne jouerait pas des jeux?
C'est-à-dire que, avant, il y a quelques fois des jeux dans lesquels j'ai joué où je n'étais pas consciente que j'étais entrée dans le jeu.
Oui.
Et que j'étais partie prenante de ce jeu. Et ce que je veux dire, c'est que, bon, quand ça bascule, tu as plus conscience des jeux qui se jouent autour de toi, fatalement.
Fort à parier. Le problème, c'est que moi, étant psy avant, j'ai déjà vu tous les jeux, en étant déjà libéré via des jeux, sauf ceux que je voulais bien jouer. Je ne peux pas tellement me rendre compte de ça, forcément. Mais il y a fort à parier que les jeux sont beaucoup plus vus. Ouais. Et jouer ou pas?
Oui, c'est ça.
Jouer ou pas? En dépit de moi-même. peu importe. Ça veut dire que si tu n'es pas bien dans ton couple, et puis que tu joues à rester dans ton couple, il y a bien des chances qu'une fois que tu as réalisé l'absence de moi, tu te tires parce que tu n'as rien à faire là. Donc là, il va y avoir un changement. Mais si tu es bien dans ton couple, même si des fois il y a des tensions, parce qu'il y en a toujours dans les couples, par exemple, tu vois, bah pourquoi tu partirais? Par contre, les tensions vont s'amenuiser parce qu'il n'y a plus rien à défendre. L'autre peut être complètement tendu dans ce qu'il vit, dans ce qui se passe. Donc ça va pacifier plein de choses. Pareil avec les enfants. Pareil au travail. Avant, tu n'aimais pas aller travailler, mais tu dois parce que tu dois gagner ta vie. Mais après, ça ne te gêne plus d'aller travailler, même si c'est quelque chose qui n'est pas intéressant, parce que tu n'en as rien à faire, si c'est intéressant ou pas. Dans l'absolu. Tu vois. Puis si vraiment tu n'as rien à faire là, bah, tu partiras. Mais tu seras tranquille avec le fait de partir. Oui.
Comme tu disais, l'expérience de l'enfant, pas d'implication directe.
Non, implication, expérience directe.
D'entrave.
Zéro. Non, non. Je disais ce matin, je disais, quand être avec ce qui apparaît, comme tu es avec un enfant que tu prends, avec un nouveau-né que tu prends dans les bras. Ah, oui. Toi, tu en fais l'expérience directe, tu es complètement là, complètement impliqué, zéro distance. Et pas d'identification. C'est tellement trop dur. Tu vois ?
J'avais la question de ce que je veux dire, que je connais amour.
Que ?
Connais amour.
Connais
amour ?
C'est une expérience directe.
C'est
su, c'est sans aucun doute possible.
C'est ça que je voulais entendre. Ouais.
C'est une évidence.
C'est une évidence.
C'est une évidence, mais depuis ma première expérience mystique.
Ça pourrait être une croyance.
Mm-hmm. Oui, non, c'est pas une croyance, c'est su. C'est, pour moi, c'est une évidence. Et puis, je le vis, si tu veux. Si tu vois, c'est pas un vécu consciemment conscient tout le temps, mais si tu parles d'amour, c'est là.
C'est le fond
que je suis, qui n'a pas besoin d'être expérimenté pour être.
Une cousine, ça fait 30 ans qu'elle me déteste, je ne sais pas pourquoi. Et à l'époque, ça m'a fait vraiment beaucoup de mal. Et maintenant, elle me déteste toujours autant. Moi, j'ai plein d'amour pour elle et je trouve ça mignon, comique, ridicule. C'est comme ça, c'est son truc. Je me dis que c'est probablement une grande souffrance qui est là et qui fait que...
Ben oui. Et si tu ne sors pas d'aller lui voir pour lui dire « Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe entre nous ?» Eh ben tu ne vas pas. Et puis si tu sens d'aller, ben tu vas.
Ouais.
Et puis c'est tout. C'est OK.
Son mari qui est venu chercher une cousine qui était chez moi. Et bon, je lui ai dit bonjour avec un grand sourire. Lui m'a dit bonjour parce que quand même, et puis bon, moi je trouve ça c'est rigolo quoi.
Bah oui.
Mais dans le temps ça m'aurait beaucoup touché, mais ça m'a plus rien fait. J'étais bien contente.
Tant qu'on croit qu'il y a un problème à résoudre, que ça ne devrait pas être comme c'est, que je ne sais pas quoi d'autre, tu vois, forcément il y a de la souffrance. Le jour où toutes ces croyances cessent, ben, il y a juste l'autre même pas. Tu vois, l'autre m'en veut. Ah oui, alors. C'est tranquille, quoi. C'est tranquille. C'est nulle part écrit que l'autre doit tout nous aimer et qu'il ne doit pas nous en vouloir pour X ou Y. C'est nulle part écrit, c'est comme ça. Il n'y a pas de problème. En réalité, il n'y a pas de problème. Simplement, on peut juste voir avec amour que l'autre se fait du mal avec ses pensées, ses croyances. Et c'est tout, mais de toute façon, en réalité, il n'y a pas d'autre. Donc à ce moment-là, c'est complètement accueilli, si tu veux, au sein de l'amour que je suis, et puis bah, c'est vécu là, en sein, en paix. Et n'allez pas croire que cela n'agit pas. N'allez pas croire que cela n'agit pas. Ça me rappelle ce que disait Ravana Maharshi, à qui on disait, mais vous qui êtes éveillé, vous devriez y aller aider les autres ici et là, etc. Et qui a répondu, mais qui vous dit que je ne fais pas plus en restant tranquille ici qu'en agissant dans le monde. C'est exactement ça. C'est dans cet accueil intérieur de ce qui arrive et qui peut être souffrant chez l'autre, il y a quelque chose qui se passe, même si on ne sait pas quoi.
Quand on utilise le terme amour, je suis amour, pourquoi amour?
Parce qu'on met des mots sur les choses.
Parce que c'est amour. Parce qu'on ne dit pas de la fleur qu'elle est amour.
Karl Renz, il dit, on pourrait appeler ça sous-vêtement.
Oui, mais il explique pourquoi.
Mais c'est quand même une sensation qui est proche de la dilatation, enfin, qui ressort aussi.
C'est ce qu'on appelle l'expérience de l'amour. Ou l'expérience de la joie, ou l'expérience du silence, ou l'expérience de la tranquillité, etc. On met des mots sur quelque chose qui ne peut pas être nommé.
Mais lui, il dit le devoir parce que c'est
ce qui représente ce qui ne peut pas être nommé, qui s'en approche autant que possible, mais qui ne fait que le représenter. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
Oui et non. Parce que moi j'avais l'impression que on est traversé par l'énergie comme tout dans le monde. Alors je me disais pourquoi ce terme, pourquoi a-t-on défini ça comme étant de l'amour? Amour, donc, ça veut dire quoi pour nous?
Amour et
mais quand tu dis énergie, ça veut dire quoi? C'est pareil.
Oui, c'est aussi amour.
C'est un mot qui représente quelque chose qui a du sens pour toi. Quel est le mot que tu choisis? Ce sera pareil. Tu pourrais mettre force, effectivement, c'est pareil. Je parlais d'omniprésence, c'est pareil. C'est tout la même chose. Et en même temps, ça représente quelque chose. Ça évoque quelque chose. Mais quand on parle d'amour, on ne parle pas de l'amour existentiel comme ça, on parle d'un amour inconditionnel, pur, total, sans condition, de tout ce qui peut apparaître et qui n'a pas besoin d'objet sur lequel se projeter pour être. C'est un amour sans objet et qui ne peut pas ne pas aimer tout ce qui apparaît, parce que c'est l'amour inconditionnel, y compris la haine. La haine, par exemple. Et là, ça renvoie à quelque chose de... Oh. Wow. Il y a quelques têtes qui ont changé depuis ce matin. Merci.
Merci à toi, Gérard.
Bonne soirée.